C'était une sorte d'île située entre la mer et les Tantos.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre recette.
On y va ?
Allez.
Allez, on y va.
Philippe Aubin, bonjour.
Bonjour.
Avec Racontez-nous votre recette, je vous propose un entretien convivial pour notre plaisir à tous les deux et surtout, nous l'espérons, pour celui des auditeurs de Divergence. Philippe, vous vous présentez comme un petit globe-trotteur hexagonal qui se fixe à 7 pour la deuxième fois. Mais alors, dites-moi, Philippe, 7 vous avait-il déçu la première fois ?
En quelque sorte, mais pas complètement, puisque j'y reviens. Non, en fait, pour simplifier, c'est que je suis revenu pour une question de bain de mer et puis aussi de proximité par rapport aux soins divers qui nous sont souvent réservés quand on vieillit un peu.
Oui. Donc, c'est une question de santé ?
Oui, les deux.
Pas seulement, quand même, les deux. Alors, c'est quoi l'autre ?
Bah, disons que j'ai vécu en campagne... très loin de tout pendant 8 ans, puis je me suis aperçu que les déserts médicaux sont vraiment évidents en France.
Ah, oui,
je les ai vécus. Quand on a 3 mois d'attente pour un dentiste, ou 4 mois, voilà.
Oui.
C'est un exemple parmi tant d'autres.
Oui.
Voilà, je me suis dit, bon, bah, l'exemple qui était probant, qui m'est arrivé l'année dernière, c'est que j'avais une radio importante à faire. Et dans les Deux-Sèvres, il y avait 3 mois d'attente et j'appelle à 7, à l'hôpital de 7. Ils me disent la semaine prochaine, vous êtes disponible, monsieur ?
Mmh.
Voilà.
C'est marrant parce que ce que vous dites, parce que c'est même à 7, hein, y a certaines spécialités où il faut attendre un temps, les dermatos. Alors par exemple, les dermatos, pardon, mon épouse a compris que la majorité des dermatos se recyclent sur des liftings, des soins de visage, une manière de se refaire une esthétique correcte, et laisse tomber la dermatologie normale. Et elle, pour avoir un dermato, a dû attendre je ne sais pas combien de temps. Donc, vous étiez où dans les Deux-Sèvres ?
J'étais entre Saumur et Parthenay.
Ah, c'est une région que j'ai bien connue, moi, parce que j'ai été longtemps en Poitou-Charentes, à Poitiers, pour, c'est pas dire, donc vous connaissez bien le Marais Poitevin.
Non, pas vraiment, je connais plus la Gâtine, en fait.
Oui, c'est un peu plus haut.
Ce qui est au-dessus.
Ouais.
Et puis les bords de la Loire, puisque Saumur, on n'est pas très loin.
Oui, c'est ça.
Donc moi, j'étais entre Thouars et Parthenay.
D'accord, oui. Ben, c'est une région que je... Mais alors, je comprends mieux pourquoi vous parlez de campagne, parce que la végétation et la campagne là-bas, ça n'a rien à voir avec l'Occitanie.
Non, et puis, comme j'ai eu l'habitude de me baigner dans ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir me baigner très très souvent, petit, moyen, grand, et puis maintenant très grand, c'est-à-dire, comme je suis né au bord de la mer en Normandie, j'ai parcouru un peu les côtes atlantiques, la Méditerranée, la Manche, et puis voilà, mon plat de retour, donc, au sud, à la mer.
Mais alors, c'est pour ça que vous vous présentez comme un globe-trotteur hexagonal, mais alors, excusez-moi, Philippe, c'est quoi cette bougeotte hein ?
C'est la curiosité.
Mmh. Ah oui ?
Avant tout.
Oui.
Et puis, les non-limites à se donner, des fois, dans des projets divers, puisque j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup d'animation, et en fonction de ce que je faisais, je me laissais porter par le travail que je trouvais sur place, parce que à l'époque, depuis les années 70, les décennies 70, 80, 90, c'était des années où on pouvait travailler facilement dans différents domaines, rebondir avec de la curiosité, puis de l'allant, et puis de l'originalité aussi, dans sa façon de faire et de vivre. On pouvait trouver des boulots partout, en fait, je crois. Et mon dernier travail, là, qui n'était pas du tout dans le milieu artistique ni dans le social, c'était de conduire un petit train touristique. J'ai fait ça pendant 8 ans.
Où ça ?
J'ai fait ça à... J'ai eu la chance de le faire à Quimper.
À Quimper ?
Une très, très belle ville.
Je ne connais pas.
Ouais, et puis après, je l'ai fait à 7. Mais pas longtemps, parce que là, c'était... ça a été catastrophique.
Pourquoi ?
Ben parce que là, c'était toute la négativité de cette ville touristique, c'est-à-dire commerciale. On va dire que c'est ça. C'était trop le principe de conduire les gens dans une espèce de monstruosité touristicale, on va dire. C'est-à-dire que le petit voyage en train, il est complètement bidon. On n'apprend absolument rien.
Bien sûr.
Alors qu'il y a je dis ça, c'est parce que je me permets de le dire, c'est que Quimper, par exemple, c'est une ville historique où pendant 40 minutes, on vous parle de Quimper.
D'accord.
Et on vous parle de l'histoire avec de la musique locale. Avec des groupes locaux.
D'accord.
Et donc là, c'est déjà plus intelligent, plus intéressant en matière de touristes. Et c'est pour ça que j'y suis resté plus longtemps, que ça me plaisait beaucoup, parce qu'en plus j'avais un responsable, un patron qui était absolument parfait, quoi.
Ah, d'accord. Et à 7, non ?
Oh là là ! À 7, j'ai fui. Je suis resté 2 mois, j'ai failli pas finir, d'ailleurs.
Pourquoi ? Parce qu'ils disent rien ? C'est simplement...
Mais parce qu'on n'est pas pris en compte en tant qu'employé, comme on devrait l'être.
Oui.
C'est la machine de guerre, quoi. C'est la machine de guerre touristique. Les patrons, je ne les connais même pas, quoi, pour dire.
Et c'est un truc privé ou ça...
C'est privé.
Ah, c'est privé. Mais à 7, c'est marrant parce que moi, je vois passer comme tous les 7-3 ce petit train. Personnellement, il ne me serait jamais venu à l'idée de monter dans ce genre de truc.
Heureusement.
Mais je vois aussi, puisque j'ai une vision sur... Il y a aussi beaucoup de bateaux qui passent. Et les bateaux sont en général pleins. Et il y a quelqu'un qui parle, le bateau s'arrête, il fait des commentaires, il dit là, voilà le bateau de Brassens, là c'était ceci. Là. Donc j'ai l'impression que, en fait, Sète, c'est quand même plus une ville qui se visite avec un bateau que sur un petit train.
Certes, ça bouchonne moins.
Ah, ça dépend des fois quand il y a un petit coup de Mistral.
C'est vraiment ça.
Donc vous avez fait ça à Quimper et à 7. À 7, vous avez arrêté.
Oui, mais
Alors vous avez fait quoi à 7 ?
À 7, c'était un accident. En fait, je ne voulais pas le faire. Mais c'est parce qu'à l'époque, je m'étais racheté un accordéon qui était très cher et il me manquait un peu d'argent. Je m'étais dit, je vais faire n'importe quoi et j'ai fait n'importe quoi.
Ouais, c'est pas quand même complètement n'importe quoi.
Non, mais je parlais en tant que le travail humain.
Oui, il y a
pire. Voilà.
Hein, oui, c'est pas très excitant, mais il y a pire. Quoi.
Dans ma vie, j'ai fait des travaux absolument intéressants qui m'ont passionné. Donc,
et quoi, par exemple ?
Travailler avec les enfants. J'ai travaillé avec les enfants pendant 20 ans jusqu'à l'âge de 35 ans.
Et vous faisiez quoi avec les enfants ?
L'animation, etc., dans les écoles.
Mais l'animation de quoi ?
Musical et puis théâtral avec les instituts. Enfin, c'était des projets.
D'accord.
Et je travaillais pour une association indépendante.
Qui s'appelait ?
Donc, j'étais pas rattaché à l'école, en fait.
D'accord. Et c'était quoi, cette association ?
Et ça s'appelait... ça commence... J'ai un trou.
C'est pas grave. C'est dans quelle région ?
C'était à Toulouse, la région toulousaine.
C'est une association locale ou nationale ?
C'était national, mais enfin, c'était pas très très répandu dans les villes, quoi.
D'accord.
Et après, j'ai travaillé aussi pour Léo Lagrange, pour
Franche
Camarade. Enfin, il y a tout un réseau comme ça.
Oui, ça peut être la Ligue de l'Enseignement, les CMEA, je veux dire. Il y avait, encore aujourd'hui, mais je pense que ça a beaucoup changé. Il y avait en France tout un quadrillage, tout un réseau de gens qui avaient des intervenants comme vous, qui, au lieu de faire leur métier, comment dirais-je, tout seul, intervenaient dans ce genre de choses avec des élèves, hein, des jeunes gens. Philippe Aubin, on va faire une petite rupture avec un petit jeu que je propose toujours à mes invités. Alors, je vais vous demander d'essayer de répondre sans réfléchir, mais après tout, hein, c'est vous qui décidez. Dites-moi, si cet était un arbre, ça serait quoi ?
Un arbre piquant.
Oui, c'est-à-dire un sapin ?
Non. Non,
Un cactus ?
Entre le sapin et le cactus, oui, c'est, ouais, pas, c'est
un,
pas mal.
Un
ça.
Figuier de Barbarie ?
Ah, c'est pas mal ça, tiens.
C'est, oui, c'est pas vraiment un arbre, mais.
Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu trompeur, le figuier.
Et oui.
Il y a des couleurs, surtout, on peut le manger, mais.
Surtout la figue, elle est trompeuse.
C'est ça.
Et si c'était un roman ?
Oh là 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 là, là c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Oh. Ça serait un polar, en fait.
Un polar ?
Ouais.
Vous pouvez dire non ? Un nom ? Le premier qui vient ?
J'ai pas de nom en tête, mais je sens comme un polar.
Un polar. Eh bien, ça va, c'est déjà bien. Une œuvre d'art. Qu'est-ce que ça serait ?
Je pense au peintre de la mer, mais...
Un peintre de la mer et sans nom.
C'est-à-dire que j'étais tellement influencé par la Normandie, parce qu'en Normandie, il y a beaucoup de peintres.
Oui, d'accord. Non, mais c'est pas grave, ça peut être un peintre de la mer amateur, hein, c'est inconnu, qui peut-être deviendra célèbre. Si c'était, alors, puisque vous voulez, si c'était une vedette...
Belmondo.
Enfin, une avant-dernière, et si c'était un sport ?
Un sport... Je dirais pas les joutes, puisque c'est pas un sport, c'est plus une activité d'animation.
C'est surtout une tradition.
Alors
un sport.
C'est un sport de combat.
Un sport de combat.
Oui.
Et si c'était une musique ou une chanson ?
Ça serait plus de la musique, on va dire électronique.
C'est-à-dire ? Citez-moi un titre. Hein. Citez-moi un titre qu'on puisse trouver pour l'écouter.
Kraftwerk ?
Comment ? Je ne connais pas, mais... Il ne connaît pas non plus. Vous pouvez nous préciser ?
Peut-être que je le prononce mal.
Je ne sais pas.
Kraftwerk.
Kraftwerk ? Ça veut... Non, il appelle...
Alors, ça s'écrit K-R-A...
K-V-R-A ?
K-R-A-M-W... Je ne sais plus comment, en fait.
Kraftwerk ? Ah, alors là, Philippe, vous nous coincez complètement.
Non, mais c'est parce que je suis un peu coincé aussi par la soudaineté des questions. Dans un micro, c'est pas facile. Donc peut-être que si j'avais réfléchi, j'aurais trouvé quelque chose
mais
beaucoup
non, mais
plus.
Le jeu, c'est que ça.
Oui, oui, je joue le jeu.
Alors une musique, une autre, si on trouve pas celle-là.
Ça commence par Kraft quelque chose, Kraft.
Et non, il n'y arrive
il va trouver le technicien.
Non, c'est pas sûr. Et c'est une musique comment ?
Oh, c'est une musique un peu violente, sec. Sèche, je veux dire. Ouais.
Sèche. Ça va. Hein. Quand tu veux, on l'écoute. Alors, attention. Eh bien, Philippe, voilà une musique entraînante.
Oui, disons qu'elle n'est pas de tout repos. Ouais. Mais j'aime bien parce qu'il y a une femme qui chante apparemment là.
Ah oui.
Ouais, ouais. Habituellement, tout ce qui est hard rock, c'est quand même des molles.
Ah oui, oui.
Mais il n'y a pas...
C'est marrant parce que c'est... Pour moi, c'est une musique que comment dire, qui ne me dit rien. C'est-à-dire, quand j'écoute ça, j'ai des images de gens, jeunes gens en général, en train de se balancer dans des grandes salles avec des projecteurs éblouissants. Et j'ai l'impression que c'est une musique qui, mais c'est une impression, hein, qui fait comme de l'alcool, comme c'est une espèce de drogue, hein, comme si on s'oubliait dans le bruit.
Oui, mais c'est un phénomène. C'est plus un phénomène que un geste musical.
Ah, ça c'est alors c'est-à-dire. Qu'est-ce que vous appelez un phénomène ?
Un phénomène, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fabriqué pour compenser un état, quel qu'il soit. Voilà, c'est pas du tout une critique.
Non, non.
Voilà, qu'on écoute ça, qu'on soit vieux, jeune, n'importe. Mais oui. Dans quel état on écoute ça aussi, peu importe. Mais c'est ce que ça dégage. C'est-à-dire que pour moi, ça vient pas de loin.
C'est-à-dire ?
Par exemple, si j'écoute. Un prélude de Debussy, je vais me dire, ouais, ou Schubert,
oui,
on va dire, ça vient de très très loin, ça.
Oui. Hein?
Alors que ça, non, ça c'est une proximité immédiate, c'est de la consommation phénoménale
d'accord.
Qu'on appelle musique, mais bon, après...
Oui, peu importe, votre analyse, en fait, m'intéresse beaucoup parce que... je disais ça, moi, c'est l'effet que ça me fait. Mais mais alors à ce moment-là, c'est en vous écoutant, je pensais à l'inondation que notre société subit de téléphones mobiles. Et en vous écoutant parler de la musique et de cette immédiateté, je faisais la liaison. C'est-à-dire le téléphone mobile aujourd'hui a une fonction image. Indépendamment du téléphone, il prend des photos. Et d'ailleurs, c'est quasiment presque plus un appareil photo qu'un téléphone. Ça sert à envoyer. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose de l'immédiateté.
Ouais.
Je suis devant un coucher de soleil, paf, 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 et j'envoie ça à je ne sais pas qui. Je suis au restaurant, on me sert un plat, paf, 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 et j'envoie ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si... on était dans une consommation, et la consommation sonore dont on parlait tout à l'heure, immédiate. Alors que je suis assez d'accord avec vous pour dire que la musique dite classique vient de loin. C'est-à-dire elle fait accéder à autre chose que l'immédiateté, ne serait-ce que parce qu'elle est âgée.
Oui, et puis bon, on pourrait en parler des heures de ce phénomène musical, mais... Je trouve que le rapport que j'ai donné à la musique est 7, c'est ça aussi. C'est, je me sens un peu piégé d'avoir répondu à ça, mais parce que j'étais pris de court et dans cette violence qu'on trouve dans cette musique, 7 pour moi c'est très 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 curieux parce que c'est à la fois attirant, apaisant, mais à la fois très rebutant.
Alors, je vais vous demander de préciser un peu ça.
Mais parce qu'on dit, c'est dit que c'est l'île singulière, une espèce de paradis, mais ça dépend pour qui.
Oui.
Le paradis, il est très ciblé.
Oui.
Pour moi, le paradis, il ne doit pas être ciblé. Le paradis, c'est le paradis. L'île singulière, ça dépend pour qui. C'est toujours pareil. Elle est singulière pour les gens qui, peut-être, l'ont mérité, ou qui ont eu accès à cette ville d'une façon assez confortable, on va dire. Mais je trouve que... Comme dans beaucoup de villes, il y a énormément de non, comment dire, de non savoir vivre et de violence et puis de pauvreté, etc., etc. quoi. Alors que c'est quand même une ville très 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 riche, on va dire.
On va revenir là-dessus. Je pense aussi que on dit singulière parce que c'est quand même, il y a peu de villes qui sont comme elles coincées au milieu de l'eau. C'est rare. Moi, je sais que ce qui m'a fasciné quand j'ai découvert Sète, c'est les bateaux. Mmh. C'est-à-dire, vous êtes en ville et vous voyez des gros bateaux qui devant votre porte, quasiment. Enfin, pas pour tout le monde, mais les gens qui sont au bord des canaux. Et ça, c'est quand même singulier. Elle est bloquée entre la Méditerranée d'un côté et un énorme, enfin un grand étang de l'autre, sous le Mistral. C'est quand même une chose. Sa situation est un peu singulière, y compris pour y accéder ou pour partir. C'est une ville qu'on peut bloquer facilement.
Bien sûr.
Il y a deux routes, une voie de chemin de fer, on bloque tout, on ne peut plus rentrer, on ne peut plus sortir.
Mais quand je disais singulier, pour moi, ça a une connotation, très positive, singulier pour moi. C'est-à-dire, quand on est singulier, c'est-à-dire qu'on est un peu en marge.
Oui.
Et qui apporte une espèce de... d'originalité, mais dans le bon sens du terme.
Oui, mais j'ai pas oublié ce que vous...
Mais ça, c'est ma version. Hein.
Oui, mais alors on va pas parler de la singularité.
Oui, bien sûr.
Parce que quelque chose de singulier, c'est quand... ça me fait penser à un vers de Paul Éluard, rien n'est simple ni singulier. Mais bon, on va pas s'engager sur une histoire philosophique à propos singulier. Mais je reviens à ce que vous disiez avant. Ce que vous disiez sur la singularité de Sète, hein, c'était pas forcément un compliment, ce que j'ai compris.
Non, parce que à travers mes relations, à mon travail, à travers ma vie quotidienne à Sète, je trouve qu'il y a une violence qui est quelque chose pour moi qui m'insupporte.
C'est-à-dire ?
Parce que j'ai vécu beaucoup dans des villes, bon, j'ai surtout vécu à la campagne, beaucoup, mais il m'est arrivé de vivre à Quimper, par exemple. Bon, quand même une ville de 60 000 habitants. C'est pas rien. Il m'est arrivé vivre à Toulouse. Bon, voilà, c'est incomparable.
Oui. Mais quelle violence, hein ? Le climat, les gens, l'accent, la chaleur ?
Non, c'est l'énergie qui s'y dégage. C'est le fait que ce soit concentré, ça génère de l'électricité.
Ah,
c'est comme des corps qui se frottent, quoi. Voilà, ça fait des étincelles. Et là, je trouve que c'est ça, un peu.
Oui.
Et puis, ces étincelles entre les niveaux de vie des gens, je trouve que c'est pas forcément sain non plus. On a quand même des immenses maisons ici, avec des gens immensément riches, j'imagine, parce que on a un quartier haut, un quartier bas, on a des gens très très pauvres. Moi, je vis dans le quartier de la Révolution, vers les puces, donc je vois bien qui vit là. Mm-hmm. Et puis quand je me promène le soir, que je vais au Mont-Saint-Clair, je vois qui vit là.
C'est pas la même chose.
Et on est à 10 minutes à pied. Hein.
Oui.
Donc c'est ça, il y a cette friction.
Oui, je suis d'accord. En même temps, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais comment dire, c'est un peu vrai dans beaucoup de villes.
Oui, mais là, c'est concentré parce que c'est sur une petite superficie, puisque c'est une île, et justement, c'est une île.
Ouais,
singulière ou pas, en tout cas, c'est une île.
Oui. Bon, et puis, c'est une ville qui a une certaine tradition, donc c'est une ville qui a été beaucoup construite sur la migration. Et puis maintenant, les édiles, comme beaucoup, font le choix d'un tourisme de masse. Mmh. Il y a dans le port de Sète d'énormes bateaux qui s'arrêtent et qui déversent leur cargaison de gens, et pas simplement à Sète, puisque Sète est quand même le seul port, après Marseille, de la Méditerranée pour pouvoir accueillir ce genre de bateaux. Voilà, donc c'est une ville un peu, comment dirais-je, un peu violente, oui, je suis un peu d'accord avec vous. Mais alors, dites-moi, vous y êtes bien quand même ou pas ?
Ben, j'y suis revenu parce que j'ai eu l'occasion de vivre dans un petit appartement à la Corniche.
Oui.
Ce qui fait que je ne suis pas à Sète,
finalement. À la Corniche, hein.
Moi, je suis à l'étranger maintenant.
Ah bon ? Mais alors vous êtes au Mont-Saint-Clair, presque, en fait, sur le pied du Mont-Saint-Clair.
Ouais, je suis en face de l'église en béton, là.
Ah oui, d'accord. Ouais, je vois. Vous êtes face à la mer ?
Presque.
Presque.
Mais j'ai un tout petit truc, j'ai un truc de 20 mètres carrés, mais pour moi, c'est bien parce qu'il n'y a pratiquement pas de confort, c'est au rez-de-chaussée, mais c'est le calme absolu.
Ah, d'accord.
On n'entend rien.
Ah oui, ça c'est bien.
Ouais. Et je trouve que c'est, pour moi, c'est ça.
Et la nuit, vous arrivez à voir les étoiles, c'est pas trop éclairé.
Oui, j'ai un Velux et donc.
Ah d'accord. Parce que un des problèmes des villes aujourd'hui, c'est que il y a plus de nuit.
Oui, c'est ça.
Et pour voir les étoiles, j'allais dire, faut se lever tôt. Si je puis dire. Bon, dites-moi, Philippe, ouais. Je vais terminer avec mes petites questions, toujours
un jeu piégeant.
Non, pas du tout. Dites-moi, Philippe, quand vous êtes heureux à 7, ça vous arrive, vous allez où ?
Je vais entre 7 et puis Marseille, hein, avec mon vélo.
Ah, sur le Lido ?
Voilà.
La longue bande
voilà.
Sur la plage ?
Voilà. Ou alors je vais chercher du thym dans la gardiole.
D'accord. Vous faites ça la nuit, le jour, n'importe quoi ?
N'importe, parce que maintenant que j'ai du temps, 100% oui. De temps à moi, je fais d'accord. Comme je veux, à n'importe quand, et voilà.
Oui, c'est vrai qu'en vélo, ça, c'est correct, parce que c'est plat, là.
Ouais, et puis la gardiole, c'est pas très loin, non plus.
Oui, monter sur le Mont-Saint-Clair en vélo, c'est une autre paire de manches.
Oh ben non, mais de toute façon, c'est pas... Il y a des escaliers, de toute façon.
Oui, puisque... non, en vélo, je disais...
Ah oui, non, non, mais à pied, c'est très bien, le Mont-Saint-Clair.
Oui, ouais. Ouais, à pied, c'est très...
Super.
La vue du Mont-Saint-Clair est assez belle.
C'est extraordinaire.
Hein. Ah oui, on voit bien la ville. C'est assez rare, je veux dire, bon, à Paris... On monte sur la Tour Eiffel, on voit Paris, mais là, sur ce mont, on a un panorama de la ville, de l'étang, de la mer, c'est assez magnifique.
Oui, et puis le Ventoux à notre c'est gauche ça, et à notre ça. Droite, le pic à...
Voilà, le bon Sony.
Non,
c'est non, pas le mont espagnol.
C'est pas le pic d'Anto.
C'est espagnol, oui. Non,
c'est l'autre, son voisin.
Il y a un autre nom qui m'échappe là.
Pourtant, je l'ai
et alors, dites-moi, la question réciproque, et quand vous êtes triste, si ça vous arrive, vous allez où ?
Quand je suis triste, je vais où ? Je sors pas forcément, mais si je dois sortir.
Vous iriez où pour vous ?
Je vais. À la chapelle des marins au Mont-Saint-Clair.
D'accord. En haut ?
Ouais.
Voilà.
Et je médite.
Et vous éditez ?
Non, je médite.
Oui. Excusez-moi, c'est
devant
une petite plaisanterie.
Devant la flamme.
Parce que je sais aussi que vous avez écrit des choses, des poésies, des contes, des... C'est intéressant, je sais ça, on pourrait reparler de ça une autre fois.
Ouais.
Vous avez écrit des choses qui se racontent, si
ouais,
j'ai bien
c'est
compris.
Ça, oui,
c'est rare, ça, d'écrire des choses qui se racontent.
Oh, rare, je sais pas, mais...
D'habitude, on écrit pour que les gens lisent.
Parce qu'en fait, pour simplifier, c'est que j'aurais voulu faire de la comédie ou bien être conteur, comme Henri Gougaud, par exemple,
voilà,
pouvoir raconter l'histoire du monde à travers des récits.
Ouais. Je pense que moi, c'est une très belle image de l'humanité, un cercle de gens sous un arbre avec un feu et quelqu'un qui raconte une histoire.
C'est ça.
Voilà. Philippe. Merci de cet entretien à vous, avec gentillesse, sincérité. J'espère que les auditeurs vous écouteront avec plaisir. Je rappelle à tout le monde que si des volontaires veulent passer dans l'émission, comme on dit, il suffit de contacter Divergence et ça sera avec plaisir que je les accueillerai. Philippe Aubin, merci et au revoir.
De même, au plaisir Yves. Au revoir.
C'était une sorte d'île située entre la mer et les tantos.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre recette.
On y va ?
Allez.
Allez, on y va.